Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Dernier numéro de la saison pour On refait la télé. Déjà.
Eh oui, déjà.
Mais on va finir en beauté avec notre invité du jour. Une chanteuse qui est dans nos cœurs depuis maintenant 60 ans. Elle a vendu, tenez-vous bien, plus de 40 millions de disques en France, mais aussi dans le monde entier.
Oui, elle est par exemple depuis les années 60 une superstar au pays du soleil levant. La preuve, ce reportage M6 qu'il avait suivi au Japon.
Chez les disquaires, ces CD remplissent des étagères entières. Rayon variété internationale, juste en face de Michael Jackson.
En tout, le nombre d'albums de Sylvie Vartan que l'on a vendu jusqu'à aujourd'hui, c'est inimaginable.
Fans mais japonais avant tout, les Nippons restent respectueux devant leurs idoles. Bien loin de l'hystérie française qui oblige parfois Sylvie à ruser pour quitter ses concerts en toute discrétion.
Je suis sortie dans une malle en osier qui servait aux habits des danseurs et des musiciens. Je voyais des gens qui disaient « Mais elle est peut-être dans la malle, elle est peut-être dans la malle !»
Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour.
Vous êtes donc la parfaite illustration de l'expression « se faire la malle ».
Oui, je l'ai faite souvent. Oui.
Vous en avez eu d'autres, des subterfuges comme ça pour échapper à vos fans au long de cette carrière?
Non, mais celle-ci était toute particulière, oui. C'était au moment de l'arrivée sur la Lune. Premier pas sur la Lune, je ne pouvais pas rater ça. Donc j'étais en concert et...
Ah, il fallait absolument rejoindre le domicile pour regarder la télé.
Oui, c'est ça. Voilà, il fallait regarder la télé. À l'angoisse.
Merci beaucoup d'être avec nous, Sylvie Vartan, pour fêter vos 60 ans de carrière. Nouvel album, nouvelle tournée, on va en parler. Mais 60 ans de chansons, ça veut dire évidemment aussi 60 ans de télé. Vous avez une idée du nombre d'émissions que vous avez faites? Ça doit se chiffrer en centaines.
Non, moi je ne peux pas compter. Ça me donne le vertige. Et je ne compte pas d'ailleurs. Je fais les choses, mais les télés, oui, c'est innombrable.
Le vertige, on va y rester justement avec le titre de ce livre qui vous amène ici.
Alors dans un instant, nous rejoindra Eric Casalo, l'auteur avec son frère Christian d'un livre qui vient de sortir chez XO Éditions. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, qui raconte votre incroyable destin.
Alors, je ne voudrais pas être désobligeant, Sylvie Vartan, mais à mon avis, ces deux-là connaissent mieux votre propre vie que vous-même.
Alors ça, c'est sûr, en tous les cas, avec tellement de détails.
C'est incroyable.
Ouais. C'est fou, mais c'est fou.
Est-ce qu'ils vous ont espionné? Ils vous ont suivi, peut-être?
Mais je me demande.
On lui demandera.
J'étais très discret, sinon.
On lui demandera quand il va nous rejoindre.
Oui. Ce livre, bien sûr, on va le feuilleter dans l'heure qui vient. On va aussi vous l'offrir dès maintenant, dédicacé, chers auditeurs, par Sylvie Vartan, bien sûr, pour tenter de le remporter, direction le compte Twitter d'On refait la télé.
Archive ou archifaux?
Sylvie Vartan, on a regardé toutes vos télés depuis les années yéyé. Il y en a eu quelques-unes quand même.
Quelques-unes, oui.
Et on va voir si vous vous souvenez de tout. On affirme des choses. Si vous pensez que ça a existé, vous nous dites archive, sinon archifaux.
Vous avez présenté une émission pour les enfants à la télé italienne. Archive ou archifaux?
Alors ça, je sais que j'ai fait beaucoup de télé en Italie. J'avais mon propre programme qui passait tous les samedis.
À Dopa Copia.
Oui, et puis aussi...
Punto e basta.
Exactement. Mais oui, vous connaissez tout de la télévision aussi.
Vos propres shows, mais donc pas d'émission pour la jeunesse. En revanche, vous avez été l'invité, Sylvie Vartan, il y a quelques années, d'une émission avec des enfants.
Oui, vous aviez notamment chanté avec eux « Come un ragazzo », la version italienne de votre tube « Comme un garçon », bien sûr.
Come un ragazzo, mio sì, un co, ma quando guardo negli occhi miei, non sono quella che passa mai per prima i suoi.
C'est-à-dire que oui, je chantais toujours en italien en Italie. Il ne passait jamais mes chansons en français.
Mais vous avez chanté dans combien de langues au total?
Peut-être une dizaine, oui, oui. Mais j'ai chanté en bulgare, en français, évidemment, en anglais, évidemment, en allemand, en hollandais, quoi d'autre? Voyons.
En mandarin, déjà. Non?
Non, vous n'avez pas fait. Non, jamais. Non.
Vous voyez?
Bah voilà.
Il vous manque ça.
Oui, oui, non, mais ça, je suis pas sûr que je vais faire ça une prochaine fois.
Allez, autre archi ou archi faux?
Un jour à la télé, vous avez imité le célèbre jazzman Louis Armstrong. Archi ou archi faux?
Oui, oui.
C'était en 1968, devant l'un de vos compositeurs historiques, Jean-Jacques Debout.
Mais je voudrais te demander une petite chose. Est-ce que tu saurais imiter par hasard Louis Armstrong?
Ah non, pas du tout.
Bon, je veux bien essayer.
Oh, when the saints...
J'ai tout fait. Hein.
Mais mais c'est pas mal du tout, hein. Vous avez des dons d'imitation, Sylvie Vartan.
Oui, oui, c'est vrai, je peux imiter certaines voix.
Qui d'autre?
J'imitais Dalida.
Ah, ça donnait quoi?
Ah bah non,
ah non, maintenant
je
ne
vais pas m'y essayer, non.
Je reviens à Louis Armstrong. Vous l'avez rencontré ou pas?
Non, mais je l'écoutais beaucoup avec mon frère.
En revanche, vous avez chanté avec une autre star internationale, un certain Paul Anka.
C'est lui qui avait écrit cette chanson, c'est ça.
Tu vois, avec Paul Anka, en 65, sur la chaîne NBC, lors d'une tournée des télés américaines, où vous aviez aussi rencontré Chuck Berry, je crois.
Oui, Chuck Berry, et puis, Little Richard, et...
Que des inconnus.
Tous les grands... oui.
Vous avez côtoyé toutes les plus grandes stars au monde hein, pendant votre carrière, Sylvie Vartan. Vous avez même rencontré, je crois, la reine Elisabeth II.
Rencontrer, t'as bien grand mot, présenté,
croisé.
Au final, dans toutes ces personnalités, qui vous a le plus impressionné?
Neil Armstrong.
Celui qui a été allé sur la Lune, pour le coup.
Exactement. Mmh. Un surhomme, enfin quelqu'un d'absolument exceptionnel et très impressionnant.
Allez, dernier test de mémoire.
Alors, vous avez reçu à la télévision un trophée créé rien que pour vous. Archive ou archifaux?
Je ne sais pas.
C'est vrai. C'était en 1975 dans une émission de Guy Lux.
C'est un fauteuil d'or.
Ah oui.
Il symbolise les 115 000 spectateurs qui sont venus applaudir au Palais des Congrès dans ce show extraordinaire. Je voudrais dire à Mademoiselle Sylvie Vartan que nous comptons sur elle au mois de février puisqu'elle doit revenir.
Non, mais avec le plus grand plaisir.
Eh bien, ce fauteuil d'or, si vous voulez bien, messieurs, vous le gardez jusqu'au mois de février.
Non, je l'emporte.
Vous l'avez encore, ce fauteuil d'or, Sylvie Vartan?
Mais je ne sais pas où il est. Vous savez, avec tous mes déménagements, mes valises et tout le reste. Justement, j'en ai entendu parler dernièrement. Je me suis dit, mince.
Il doit valoir un prix d'or, justement, maintenant. Ce spectacle dont Guy Lux parlait, c'était le Palais des Congrès. Un show pharaonique, 135 costumes, 16 danseurs, 8 décors, pour un investissement de 3 millions de francs à l'époque, ce qui était pour vous, même à titre personnel, un énorme risque financier. Hein.
Mais moi je ne compte pas.
Il y a d'autres autour de vous qui doivent compter et dire, oula, attention.
Ils comptent. Ils disent, non, tu ne peux pas faire ça. Mais moi je ne peux pas, dans ce que j'ai envie de faire, on ne peut pas me mettre de limites, parce que sinon... la créativité s'arrête. On ne peut pas me mettre des normes et des barrières. Donc, je dois réfléchir à ce que j'ai envie de faire en grand. Et puis après, les autres, c'est leur travail d'essayer de caser ce que j'aime dans un petit format ou
dans
un
le budget.
Grand format pharaonique. Enfin, bon, voilà.
On fait la télé, marque une toute petite pause et on vient juste après ça avec Sylvie Vartan.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Les refleurir les lilas. En tout cas, ce n'est pas toi. L'amour, c'est comme une cigarette. Ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée.
Quel est le premier train qui vous fera danser?
Chanter, vous aussi.
En studio, tout le monde chantait, je peux vous dire.
Trois grands tubes de notre invité du jour, c'est Sylvie Vartan qui est avec nous.
Le Locomotion qu'on vient d'entendre, ça c'était en direct dans l'émission H-Tendre, c'était l'adaptation d'un tube américain. Hein. Ça c'était la grande mode dans les années 60, reprendre en français des chansons anglaises avec des traductions qui étaient d'ailleurs souvent assez approximatives.
Oui, spéciales, hein. Spéciales, mais enfin bon, peu importe, parce que c'était le rythme qui comptait aussi.
Je me demandais, l'amour c'est comme une cigarette, vous avez encore le droit de la chanter, cette chanson, malgré les dispositions anti-tabac?
Est-ce qu'on
l'entendra, salle Playel, le 20 novembre?
Non.
Mais c'est pas pour ça.
Pas pour ces raisons-là.
Oui. On va entendre plein d'autres choses dans ce récital.
Oui, ce sera le 20 novembre, on l'a dit, le récital de Sylvie Vartan, c'est le nom que vous avez donné à ce concert, car on sera dans quelque chose de très intimiste, c'est ça?
Oui, parce que vous savez, j'ai tellement fait de grands spectacles dans des grandes salles, avec des danseurs, avec des grands orchestres, et je me suis rendu compte que J'en avais fait le tour.
Sur scène, on découvrira vos tubes, mais aussi des titres du nouvel album Merci pour le regard, qui sort le 1er octobre, avec de jolies collaborations, hein,
mais
très belles plumes.
Nouvelle collaboration, nouvelle rencontre.
Clara Luciani
très
notamment.
Très excitante. Oui, c'était vraiment un cadeau, parce que j'avais terminé mon album, et elle m'a proposé cette chanson, et donc on a dû refaire une séance spécialement pour sa chanson. Sa chanson cadre tout à fait dans la couleur de mon album.
Début de cette tournée en France, mais aussi en Suisse et Belgique, le 11 octobre au théâtre Édouard VII à Paris. Toujours aussi traqueuse ou pas avant les spectacles qu'à vos débuts?
Ah, ouais, vraiment. Plus qu'avant.
Ah, davantage encore.
Ah, oui.
Rassurez-moi, vous vous enfermez plus dans les toilettes.
Si.
Vous allez dans les toilettes pour
non,
être
je suis tranquille.
Tranquille,
ouais. Parce que personne ne me parle, personne n'ose me déranger. Et en fait, voilà. C'est...
Donc tout le monde doit vous chercher, mais elle est où, Sylvie? Levez de rideau
dans
5 minutes.
Je suis dans ma loge, sinon ils paniqueraient.
Et rassurez-moi pour cette tournée, parce qu'il va aussi y avoir une tournée. Vous n'allez pas partir avec vos produits pour nettoyer les salles de bain des hôtels? Il paraît que vous faisiez ça au début.
Oui, mais ça peut m'arriver encore. Ça dépend. Des hôtels.
Mais il y a une histoire encore, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qui dit que Sylvie Vartan aime tellement faire le ménage et que les choses soient propres, qu'elle quitterait son domicile 2 jours avant une première date de concert pour ne pas avoir la pression mentale de devoir faire le ménage à la maison.
Non, c'est pas comme ça. Pas 2 jours, il me faut un jour, un soir de tranquillité en dehors de mon cadre familial. Parce que je dois me concentrer et j'ai besoin d'un environnement très zen. Donc je prends un hôtel près de l'endroit où je vais chanter et je sais que je suis tranquille, partout où mes yeux se posent, il n'y a rien, c'est vide. Donc voilà, ma tête est
vous êtes libérée mentalement.
Oui, non, parce que chez moi, c'est infernal.
Sauf à ce qu'il y ait à nettoyer la baignoire de la chambre d'hôtel, alors là.
Non, plus zen. J'en suis pas là encore. Non, ça y est, j'ai passé le cap.
Sylvie Vartan va justement continuer à parler de vos débuts à la télé cette fois.
On refait la télé sur RTL. On refait l'invité.
Ah, Francky Jordan, on ne vous présente pas. Vous êtes une des têtes du rock actuellement, et Sylvie Vartan. Vous, on vous présente parce que je crois que ce sont vos débuts.
Oui.
Non ? Ce sont vos débuts.
La voiture est en panne d'essence.
Ah là là.
Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler ?
Je rentre à la maison.
Ça fait bien loin.
Elle lève les yeux au ciel quand elle entend ça.
19 novembre 1961, l'émission Musicorama, votre premier passage télé, Sylvie Vartan. Alors vous aviez à peine 17 ans, on entend la toute petite voix.
Ouais, mais surtout la toute petite voix, parce que c'était pas votre tonalité,
mais
cette chanson.
Non.
Vous êtes arrivée pour remplacer une chanteuse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, qui ne voulait plus chanter cette chanson. Et donc c'était dans sa tonalité, puisque Francky Jordan avait déjà enregistré sa voix. En fait, c'est Eddy, mon frère, qui produisait le disque. Il m'a dit, bon, au dernier moment, bon, il faut que tu nous dépannes, c'est le cas de le dire.
Ça s'est fait au débeauté, quoi.
Non, ça s'est passé comme ça. Je suis allé dans même pas un studio, c'était un salon de la rue Beaujon, qui était aménagé avec un micro, et on m'a mis des oreillettes pour écouter la voix de Francky. Je devais répondre, Eddy dirigeait, et voilà, ça s'est passé comme ça.
Vous devenez la première fille à chanter du rock en France?
Ben oui, mais moi j'aimais beaucoup ça et j'ai chanté souvent du rock d'ailleurs.
Alors, autre temps fort de vos débuts, ce que l'on a appelé en juin 1963 la nuit de la nation. Éric Casalo, vous venez de nous rejoindre, bonjour.
Enfin, il est arrivé.
Ça y est.
Bienvenue.
Bonjour.
Je suis en retard. Voilà, je suis ravi de vous retrouver.
Nous aussi, parce qu'on t'attendait.
On évoquait Éric Casalo, la nuit de la nation, qui a été un événement incroyable sur lequel vous revenez dans ce livre. Hein.
Ah oui, c'est vrai que c'est un événement important pour cette époque-là. Je dis que c'est un petit peu la première rêve partie qu'il y a eu dans l'histoire de la musique, en fait. Et il ne faut pas oublier que c'était carrément avant Woodstock, en fait, en réalité.
Il y a 200 000 jeunes, c'est ça?
Près de 200 000 jeunes qui ont envahi la place pour voir Johnny et Sylvie, et Richard Anthony, puis quelques autres. Ils n'avaient pas du tout prévu ça, ils s'attendaient peut-être à 20, 30 000 jeunes. Je ne sais pas si tu t'en souviens vraiment en détail, mais ça devait être quand même très impressionnant, parce que les gamins pouvaient même s'accouder à la scène. En fait, il y a des photos où on voit notamment Johnny, il lui attrape le bas du pantalon, etc.
Vous avez eu peur sur scène un peu, Sylvie Vartan?
Non, pas du tout.
Non.
L'inconscience de leur vie.
Oui, absolument.
La presse parle à l'époque d'une nuit avec des voyous, évoque des dégradations qui en fait n'avaient pas eu lieu.
Très peu. C'était pas le sujet, je pense, en réalité. Voilà, il y a eu une réaction dans les médias, genre, qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Il y a eu quelques bris de vitrine, sans doute, mais
non,
ça s'est
oui,
dû
c'est
à la
vrai,
foule.
Il n'y avait aucune violence.
Mais il n'y avait pas de violence réelle, en fait. Ils étaient juste heureux d'être là. Je pense que c'est ça, le truc.
Alors, trois mois après cette nuit agitée, nouveau coup de chaud, Sylvie Vartan, lors d'une tournée d'été au Canet, cette fois sur la Côte d'Azur. Voici ce qu'il s'était passé, raconté par une archive radio de l'époque.
Chez nous, au théâtre de Verdure, au Canet, hier soir, une grosse bagarre à cause de Sylvie Vartan. Il n'y avait pas de son pour notre chanteuse, le micro n'amplifiait pas suffisamment son filet de voix. Sylvie Vartan se fatiguait, elle a donc refusé de chanter. Les copains se sont fâchés en voyant notre blonde idole quitter la scène purement et simplement. Une grande bagarre s'en est suivie et l'on déplore ce matin deux blessés. Le service d'ordre a même été débordé, il a dû faire appel à la police et aux sapeurs-pompiers de Cannes pour disperser la foule déchaînée. Décidément, les idoles des jeunes ne sont pas toujours idolâtrées.
Et le maire du Canet ira même jusqu'à porter
oui,
plainte contre vous, Sylvie Vartan.
Oui.
On n'a pas retrouvé l'archive, mais il paraît que vous êtes allé l'affronter sur une télé régionale.
Tu t'es retrouvé sur une chaîne régionale
je le pointais du doigt.
Voilà, je prends le pari que je serai toujours là dans quelques années.
Mais oui, parce qu'on m'accusait injustement, alors bon.
On va finir ce zapping de vos débuts avec un moment plus heureux, une série de concerts entrés dans l'histoire de la musique, puisqu'on est en 1964. Vous partagez l'affiche de l'Olympia avec les Beatles.
C'est vrai que quelques mois plus tôt, les Beatles avaient failli devenir vos musiciens.
Oui.
Votre frère les avait rencontrés.
Oui, parce que Eddie cherchait un orchestre anglais. Il était parti donc à Londres et on lui avait indiqué un groupe de jeunes gens qui se produisaient dans un club à Hambourg, c'est ça?
À Hambourg, je crois. Ouais.
Donc il avait été voir ce groupe qu'il avait trouvé formidable. Et ils étaient pris dans ce club. Ils avaient un contrat donc immuable.
N'empêche que vous auriez pu avoir les Beatles comme musiciens. Bon, du coup, ça aurait pas été les Beatles. Mais ce spectacle, c'est un triomphe. 42 concerts archi complets. Vous chantez même plusieurs fois par jour pour répondre à la demande du public.
Trois fois par jour.
Oui, ça allait jusqu'à trois fois par jour.
On nous est arrivé de chanter trois fois par jour. Enfin, il m'est arrivé.
À la chaîne.
Toi, tu es spécialiste de ça. Tu as dû le faire pour plusieurs de tes spectacles parce qu'il y avait une demande et donc. On te faisait faire le spectacle deux fois par jour.
C'est ça. Avec Sylvie Vartan, les matinées, c'est vraiment à 9h du matin, puisqu'il y a trois autres concerts
non,
derrière.
En Argentine aussi, on faisait des spectacles complètement hallucinants.
À l'étranger, même, tu faisais dans, je sais plus dans quel pays, des concerts, dans des salles de spectacle d'abord, et ensuite tu faisais la tournée des clubs où tu faisais d'autres concerts.
Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, mais ils savent tout, mais comment ça se fait comment c'est possible des espions.
Oui, on se demandait tout à l'heure au début d'émission, est-ce que vous avez espionné Sylvie Vartan? Vous l'avez suivi, en fait, en cachette pendant des années.
Ouvertement,
alors peut-être, mais on se connaissait pas.
On vient aux Beatles, écoutez ça, archive rare, les Beatles en français, au micro de Salut les copains.
Salut les copains, ici c'est Paul McCartney.
Salut, deux, trois, quatre. Salut les copains.
John, quand pensez-vous retourner en France?
Nous ne savons pas pour le moment.
George, vous préférez les filles françaises ou les filles américaines?
Toutes les filles.
Pour moi.
Vartan a donc partagé la scène avec les Beatles quand on vous disait que sa vie était un vrai tourbillon. On ne vous a pas menti. On va maintenant accueillir celui qu'on appelle la tornade, Jadin.
Et comment?
C'est Germain Sasse.
On le dit partout.
Qui nous rejoint en studio juste après ça. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussat.
Dit-on, vous avez également été fan, Patrick Bruel.
J'étais pas fan. Vous savez quoi?
Je suis baissier.
Aujourd'hui, on se réveille. On met quoi? On met BFM. Regarde les infos. Oui. Voilà. À l'époque, j'avais la télévision et hop, je tombais sur cette série. Et je regardais au départ d'un œil distrait et très vite, on se passionne pour cette histoire dans ce salon de couture avec ses familles et ses trucs. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? En fait, c'est le début des séries. Ouais. C'est le principe des séries.
Et donc, au final, vous avez regardé pendant combien de temps?
Je sais pas, longtemps en tout cas. Ils ont même changé. À un moment donné, ils ont changé de tête. Il y en a un qui est mort, ils en ont mis un autre.
Ah oui, ça arrive souvent dans ces séries.
Ouais. Ça, oui, voilà. Surtout quand elles durent 50
avec
ans.
Avec Ridge, Forrester et compagnie. Ouais, je me rappelle très bien.
Comment vous avez fait pour décrocher cette addiction amoureuse à la beauté, Patrick Bruel?
Eh bien, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'on décroche aussi vite qu'on accroche.
Et voilà.
Il suffit d'un jour, on regarde pas.
En parlant de série, Sylvie Vartan, ça vous dirait de tourner dans une série télé?
Ah oui, j'aimerais bien, mais ça dépend du sujet, ça dépend. Le sujet, c'est tout.
Qu'est-ce qui vous amuserait comme type de rôle dans une série télé?
J'aimerais bien être détective. J'aimerais bien faire des rôles suspense. J'adore toutes les séries du style suspense, les Poirot, les...
Hercule Poirot.
Hercule Poirot et tout ça. Quand j'étais enfant, je lisais tous les Agatha Christie passionnément. Et d'ailleurs, j'ai appris l'anglais comme ça.
Germain, on va maintenant découvrir le numéro 2 de ce top 3 de vos moments préférés de l'année. Et vous avez choisi cette fois un extrait de l'émission avec Jean-Paul Gaultier.
Oui, vous le savez, le créateur est aussi célèbre pour ses créations que pour son French accent. Son anglais teinté de français qui lui a valu un sacré coup de chaud une fois avec Prince, un quiproquo très gênant entre lui et le chanteur qu'il nous avait révélé.
C'était donc au moment avec Luc Besson, c'était la première version, parce qu'il y a eu deux versions en vérité. Ce qui a été réalisé, c'était la seconde version. Donc là, la première version, il devait y avoir Prince dans le rôle que tient Chris Tucker. Vous savez.
Ah, dans le cinquième élément ?
Dans le cinquième élément. Oui. Et donc, à un moment, donc je lui montrais, il est arrivé, c'est un jour où Prince devait faire un concert à Paris. Et Prince passe avant son concert et je lui montre les croquis pour dire quelque chose, pour
du
lui
costume,
montrer voilà, les siens, justement, j'étais en train de parler. Et je lui dis, et ce vêtement qui était une espèce de fishnet avec une espèce de faux cul. Voilà,
un
faux cul, ça s'appelait comme ça au début du siècle dernier. Et là, je lui dis, on dit, it's like a faux cul, parce que j'essayais de faire l'accent anglais parce que je voyais qu'il bougeait le nez et tout, et il avait l'air de pas comprendre du tout. Et après, je lui il m'a regardé.
Parce que lui, il a compris fuck you.
Oui,
voilà, ce qui veut dire en anglais, faisons connaissance de manière intime.
Et je ne l'ai su qu'après parce que j'ai rien compris du tout.
L'incident diplomatique.
Total. Après, il a téléphoné à Besson en lui disant il n'était pas très sûr, il trouvait que ça faisait assez gay les costumes que je lui proposais.
Oh, c'est étonnant.
Si, Martin, Jean-Paul Gaultier, vous avez partagé un duo avec lui à la télé.
Comme un garçon, moi je suis têtu.
Et bien souvent, moi je distribue des corrections pour faire attention.
Comme un garçon. Tu n'es qu'une toute petite fille.
Alors pour en avoir discuté avec lui, il en a gardé un très bon souvenir évidemment,
oui,
ce duo.
Moi aussi. Oui. Il est charmant, Jean-Paul. Adorable. Il a beaucoup de fantaisie, il a beaucoup de talent. Il a plein de cordes à son arc. Il est
Et une de plus, peut-être bientôt justement, puisque Jean-Paul Gaultier, d'après un journaliste toujours très bien renseigné qui s'appelle Clément Garin, il pourrait rejoindre le jury de la prochaine saison de Danse avec les Stars sur TF1. On vous verrait bien, vous aussi, Sylvie Vartan, dans le jury de ce concours de danse, vous qui en avez tant fait. Vous avez même eu votre propre école de danse. Ça vous amuserait ?
L'idée d'être un peu jury, c'est un peu perturbant, mais je sais pas, j'y ai pas songé.
Il vous avait proposé, il y a quelques années, d'être candidate de Danser avec les Stars ?
Ah oui, non, ça non. Hors de question. Non, j'ai suffisamment dansé comme ça. Non.
Ça suffit.
Ça, non.
Il est maintenant temps de découvrir, Germain, ce qui a été pour vous le meilleur moment de l'année dont on refait la télé.
Bah oui, on parlait à l'instant d'incidents diplomatiques évités de peu entre Jean-Paul Gaultier et le chanteur Prince. Eh bien, figurez-vous, Sylvie Vartan, qu'on est également passé à deux doigts de la catastrophe. Le jour où on a reçu Muriel Robin, Éric Dussard, ici présent, a été abominable.
Ah bon, comment ça ?
Oh là là, ça m'étonne, ça.
Alors, archives, c'est ce que vous devez nous dire, Muriel Robin, si vous pensez que ce qu'on raconte a vraiment existé. Archives faux, si vous êtes persuadé qu'on a inventé, que vous n'avez jamais fait ça à la télé.
J'ai compris le concept du jeu.
Oui, parce que
j'ai pris mon temps.
Tu expliques comme si elle ne comprenait pas.
Comme si j'étais sourde. Un peu pas non-voyante, mais quand même, il ne reste pas grand-chose. Il faut bien que je... Ça fait plaisir. J'avais plutôt le sentiment d'avoir pris un petit coup de jeune, un petit coup de frais. Et là, bing, je prends un coup de pelle derrière la nuque. Je te jure, je pense qu'il m'a pété de cervical quand même.
Parce qu'on a perdu des invités sur ce jeu qui auraient compris, vous savez.
On m'avait perdu dans deux secondes. Je réponds et je me casse.
Vous savez ce qu'est un podcast, Muriel Robin ?
Ouh là là là. Elle va partir maintenant.
Est-ce que le public a bien entendu mon silence ? Qu'est-ce que c'est que ce gamin ? Mais qu'est-ce que c'est que...
On va rappeler, tout le monde ne sait pas ce qu'est un podcast.
Cette question.
Tout le monde ne sait pas ce qu'est un podcast, Muriel. C'est nouveau.
Non, je te jure. Tu sais ce que c'est, une baffe dans la gueule ?
Bah, bravo Germain Sastre, bravo. Ouais.
C'est dommage. Hein.
Moi qui avais l'intention de faire revenir l'année prochaine.
Ah oui, c'est, ouais, c'est compromis maintenant.
Ah bah non,
à
c'est pas compromis.
Eh ben,
c'est foutu.
Je suis content. Moi, c'est fait, c'est dit. Voilà.
Bon, on verra. Écoutez, on se rappelle pendant l'été. Si vous n'avez pas de nouvelles avant Noël, c'est que c'est mauvais signe.
Allez,
merci
noté,
beaucoup Germain Sastre. Merci. Bien sûr, vous serez avec nous à la rentrée pour cette nouvelle saison d'Enfin la télé.
Peut-être.
Merci beaucoup pour cette année.
Bisous. Salut.
À vous deux. Enfin la télé, ça continue avec Sylvie Vartan juste après ça.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Merci Stéphane Jeunesse. Jusqu'à 12h30, on refait la télé avec une chanteuse devenue une star dans le monde entier. Elle a même fait des pubs à la télé japonaise. C'est bien.
Vous vous souvenez de cette pub, Sylvie Vartan?
Je m'en souviens, c'était une pub pour des chaussettes.
Ouais.
Oui, et donc, moi important. J'adore les chaussettes japonaises, j'en ai toute une collection, et c'est les rois des chaussettes.
Pourquoi? En quoi les chaussettes japonaises sont si
Mais parce qu'elles sont uniques, de couleur, de forme, de
matière,
de tissu, avec des broderies, avec des dentelles, sans dentelles, de toutes les couleurs.
Avec
petites.
Juste le pouce ou tous les doigts?
Ah, il y a de tout, de tout.
Je vois que Jade a la même névrose,
oui,
que vous.
Je connais bien,
j'ai une collection de chaussettes extraordinaires, toutes japonaises.
Alors, on sait bien que vous n'avez pas souvent l'occasion de regarder la télévision française, car vous voyagez beaucoup. Eh bien, on va vous offrir ce plaisir.
Ah oui. Le plateau télé de l'invité.
On vous propose des programmes télé diffusés la semaine prochaine. Vous nous dites... dans l'idée, celui qui vous tente le plus.
D'accord.
Mardi soir, on vous propose sur RMC Story un documentaire sur le crash du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Très sympa. Ou alors la première demi-finale de l'Euro de football sur M6.
Ah oui, le football, oui, oui.
Plus de 16 millions de téléspectateurs pour la défaite de la France,
ouais,
face,
bah,
à la Suisse lundi soir.
Très triste.
Vous avez regardé,
Sylvie
Vartan?
Un truc insensé quand même.
Ouais.
Ah oui, tellement triste, les pauvres. Non, franchement, surtout Mbappé, qui est un merveilleux joueur.
Un mot de ce documentaire sur le crash de la Malaysia Airlines, Sylvie Vartan. Vous êtes comment en avion? Vous êtes plutôt rassuré?
Non, pas du tout, non.
Ah.
Pas du tout rassuré. Une garantie, c'est toujours avec angoisse que je me mets dans l'idée que je dois partir. D'ailleurs, je pars demain, déjà, voilà.
Eh ben, vous êtes servi, hein, avec le nombre d'allers-retours, parce que c'est long en plus. Hein,
Ah oui, c'est long, oui.
Paris, Los Angeles,
mais je me dis, ça aurait pu être l'Australie, ça aurait été encore plus long.
Oui.
Voilà.
Ah, c'est bien de positiver.
Vu comme ça,
voilà. Pire.
Paris, Los Angeles, c'est combien d'heures de vol?
Ah, bah, c'est quand même 12 heures. Hein. Ouais. Enfin, 10 heures, 12 heures, tout dépend des vents. Mais bon, c'est toujours pareil. Je le connais par cœur, le voyage.
Ah oui?
Oui, je sais exactement ce que je survole, même si je dors, je sais que je survole l'Irlande, je survole le Groenland, enfin je sais toujours où je me trouve.
Vous n'avez pas besoin de regarder le petit écran devant vous,
non,
là?
Non, je suis un vrai GPS.
Aujourd'hui encore, donc vous vivez entre Paris et les États-Unis, où est-ce que vous vous sentez le mieux pour finir?
Chez moi.
Et chez vous, c'est où?
Bah, oui. Partout, sauf dans un avion, qui est parfois chez moi, parce que je m'organise aussi. Je fais un chez moi un peu partout. Donc, je m'installe toujours, que ce soit dans l'avion.
C'est-à-dire, vous installez dans l'avion.
Mettez vos photos.
Ma nourriture.
Ah, vous êtes avec votre nourriture?
Oui, aussi, parfois. Puis j'ai mon chien aussi, donc je charge d'âme, donc je fais attention à. Ma petite bête.
Donc quand il vous voit arriver, il faut bon, elle séduit, on va la laisser faire comme d'habitude, elle s'installe avec son chien.
Ouais, j'ai mes coussins, mes caches, mes yeux, enfin je sais pas.
C'est votre maison pendant quelques heures.
Oui, c'est ça.
Allez, autre choix de programme télé.
Mercredi prochain, vers 16h, pour vous, ce serait plutôt le Tour de France sur France 2, ou les Reines du Shopping, l'émission de conseil vestimentaire de Christina Cordula, c'est sur M6.
Alors là, dilemme. Non, je passe.
Vous avez été une reine de la mode dans les années 60-70, Sylvie Vartan. Vous avez été habillée par les plus grands couturiers.
Dans le livre, vous dites que ces tenues très avant-gardistes n'étaient pas du goût de tout le monde, notamment un costume pantalon blanc qui n'avait pas plu du tout à certains journalistes.
Oui, c'est curieux ça.
Mais oui,
parce
pourquoi?
Elle fait partie des premières femmes, jeunes femmes à l'époque, à être passée à la télévision en pantalon. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que le costume, c'était un smoking blanc. Et effectivement, il y avait eu quelques coupures de presse, genre elle ose en plus se pointer à la télé en pantalon.
Il y en a un qui avait même parlé de pyjama.
Oui, carrément, voilà, un pyjama, son pyjama blanc, voilà.
On va maintenant découvrir le choix télé pour la semaine prochaine de la rédaction de Téléloisirs.
Bonjour Benjamin Elfer.
Bonjour Jade, bonjour à tous.
Bonjour Benjamin.
Aujourd'hui, vous nous conseillez un documentaire qui sera diffusé jeudi prochain sur C8.
Ça s'appelle Derrière le masque et ça sera diffusé, vous le disiez, à 21h jeudi sur C8. Ce documentaire raconte l'histoire des soignants de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Une équipe de télévision les a suivis pendant toute la crise du coronavirus. Alors pourquoi s'intéresser en particulier à cet établissement privé, plutôt UP ? Eh bien parce que c'est là-bas qu'a été diagnostiqué en février 2020 l'un des premiers cas de Covid-19 en France. Pendant 52 minutes, on revit donc la crise sanitaire au travers du regard de ces soignants qui n'ont jamais démérité.
Et d'ailleurs Benjamin, ce qui vous a marqué, c'est justement la force des témoignages.
Oui, du chef de réanimation qui sera lui-même contaminé et qui finira par être patient dans son propre service, à l'infirmière qui enchaîne les heures sans compter, jusqu'à la directrice de l'établissement qui se bat pour trouver des lits, tous racontent la sidération qui a été la leur lorsque les premiers patients ont commencé à affluer. Voilà cette crise sanitaire, on commence lentement à en voir le bout, mais pour ne pas oublier par où nous sommes passés et par où sont passés ceux qui nous ont soignés, je vous conseille vivement de regarder Derrière le masque jeudi à 21h sur C8.
Merci beaucoup Benjamin Elfer et bonnes vacances. On fait la télé avec Sylvie Vartan, ça revient juste après ça.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Il n'y a problème et dirti que ti amo.
Oh, il n'y a problème et quanto tu verras.
On a eu l'italien et on a eu l'allemand.
Voilà, j'ai un problème, votre duo avec Johnny, l'un des plus gros tubes, Sylvie Vartan.
Et pourtant, cette chanson, vous n'en vouliez pas au départ, Sylvie Vartan. Vous la trouviez trop sirupeuse.
Bah, c'est-à-dire que je la trouvais surtout pas bien pour Johnny. Je trouvais que...
Un peu trop mièvre pour lui.
Voilà, ouais. Voilà.
Il y a un extrait de télé avec vous deux qui reste toujours aussi impressionnant, 56 ans plus tard. Ce sont les images de votre mariage, le 12 avril 1965, dans une cohue absolument indescriptible.
Dans la mairie de Loconville, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Comme la mairie, l'église s'est révélée beaucoup trop petite pour accueillir les amis du couple et les curieux, amateurs ou professionnels. Monsieur et Madame Smet ont mis presque 20 minutes pour rejoindre leur voiture. Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme.
Carrément.
Vous avez failli mourir étouffé, Sylvie Vartan.
Oui, voilà, il faut bien qu'ils mettent un peu de piment dans tout ça. Non,
bien avoir peur.
N'empêche que... Non, mais enfin, c'est vrai que c'était un peu houleux. J'avoue.
Est-ce que ça a été le plus beau jour de votre vie, malgré cette foule oppressante, malgré tout ce stress que ça a dû provoquer ?
J'ai pas eu le temps de réaliser, parce qu'enfin, j'étais beaucoup plus inquiète pour ce qui se passait autour. Mon père, qui se déplaçait difficilement, ma grand-mère, mes parents, etc. Donc, j'étais plus préoccupée par l'immédiateté de la situation que par trouver du plaisir... À tout ça, mais après, oui, on s'est rattrapé.
Cette frénésie vous a jamais oppressé ?
M'a oppressé, dérangé par moments, oui, parce que, je veux dire, c'est difficile de toujours être dans le regard des autres, tout le temps, tout le temps.
Le 14 septembre, Laetitia Hallyday organisera un concert hommage à Johnny à l'Accor Hotel Arena, ex-Bercy, en présence de nombreux artistes. Vous avez été invité, Sylvie Vartan ?
Non, mais je ne compte pas particulièrement être invité.
Vous ne voulez pas y aller ?
Bah, je ne vois pas en quoi ma présence serait la bienvenue.
Et en quoi elle ne serait pas la bienvenue ? Il y aura de nombreux artistes qui vont chanter, qui vont rendre hommage à Johnny.
Oui, non, mais moi j'ai déjà rendu hommage à Johnny à ma façon. Et donc voilà, les hommages c'est terminé. Il est dans mon cœur, pas besoin de faire des hommages.
Est-ce qu'on doit comprendre aussi en creux que la réconciliation n'est pas pour demain avec Laetitia Hallyday ?
Mais je n'ai pas à me réconcilier ou pas à me réconcilier. Je veux dire, c'est deux vies différentes, deux façons de voir la vie différemment. Voilà.
Content de voir que les choses s'apaisent néanmoins.
Écoutez, l'apaisement est toujours une bonne chose. C'est pour tout le monde, c'est la meilleure façon d'être et de vivre.
Ce 14 septembre, il y aura aussi l'inauguration d'une esplanade Johnny devant Bercy, avec une statue de lui sur une Harley Davidson, ce qui provoque, je ne sais pas si vous avez vu ça, la colère de la maire écologiste du 12e arrondissement, qui estime que ce n'est pas bien de le montrer sur une moto qui est aussi polluante.
Ça, j'aurais pas pensé à ça, tiens. Mais...
Ça l'aurait fait marrer, ça, non, Johnny?
Oui, oui, il aurait haussé les épaules.
Il était comme ça, assez taiseux, bien sûr, mais vous le dites aussi, un personnage très contrasté. On a dit beaucoup de choses sur lui depuis sa disparition. Quand vous lisez tout ce qui a été écrit sur lui depuis sa disparition, vous le reconnaissez?
Oui, oui, oui. Ah ben, il y a certaines choses qui sont vraies, mais enfin... Il y a beaucoup d'exagération. Évidemment, ce qu'on pouvait en voir et en connaître est différent de ce que moi j'ai connu. Et voilà, j'ai pas de commentaire à faire sur ce que pensent les autres.
Vous connaissez sa vérité?
Je pense, oui. Je pense.
Et elle est sans doute plus complexe que ce qu'on nous a parfois présenté.
Bah, complexe, elle l'était, oui, certainement, mais très attachante.
Vous avez réussi pour finir à écouter le dernier album?
On
avait dit à l'époque. Non?
Non, je ne l'écouterai jamais, je crois. Non, parce que ça me renvoie à des moments terribles et je ne veux pas l'imaginer comme ça, en chantant ces chansons-là, en étant pas au mieux de sa forme. Ce n'est pas une image que je veux garder en moi.
Vous savez combien de duos vous avez partagé avec lui à la télé? Énormément, je pense.
Je crois 50. On m'a dit que...
Alors, c'est une colle.
Ah bah bravo, 430 pages et on n'a pas la réponse.
Je pense qu'on peut dire 50. Non, mais
je connais pas.
Pareil, j'étais absolument ébahi de 50. Je dis mais comment c'est possible?
On en a retrouvé un de duo aussi mignon que rigolo.
Ma mère m'avait bien dit, surtout méfie-toi de ce Johnny.
Moi, quand j'ai dit j'épouse Sylvie, mes copains pleuraient, je n'ai pas compris. Les filles, vraiment, quelle invention. Ah, ça me servira de leçon.
À moi aussi,
barbare, cocktail pour moi.
Un cocktail que vous aviez partagé pour une émission réalisée par le grand réalisateur Jean-Christophe Averty.
Oui.
Sacré moment, ça aussi. Hein.
Ah oui, grand moment, oui, oui. On était heureux, on était jeunes, on était, on avait tout pour nous, un métier qu'on adorait, on s'aimait, enfin c'est le rêve.
On va rester dans le rêve justement, on va terminer cette émission avec un petit voyage. Vous partez demain aux États-Unis, Sylvie Vartan. Bah, vous savez quoi, on y va dès maintenant. Direction Las Vegas. À tout de suite.
Allez.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussat. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
Sylvie Vartan est notre invitée aujourd'hui pour fêter ses 60 ans de carrière. Et on va terminer avec deux dates très importantes pour vous. La première, c'est le 9 décembre 1982. Ça vous rappelle quelque chose?
Quand on dit 9 décembre, c'est l'anniversaire de maman qui me vient en tête immédiatement, avant
mais c'est
Las
aussi,
Vegas.
C'est aussi...
Et il s'est trouvé que c'était
exactement
ma première à Las Vegas. Voilà. Et je disais, ça présage de quelque chose de très bon, certainement.
Et c'est une star américaine
était là.
De la chanson, de la danse et du cinéma qui vous présente au public, Gene Kelly.
Tonight, from Las Vegas, a very special evening. With Miss Sylvie Vartan. And now, Mr. Gene Kelly.
Welcome to the opening night in the celebrity room of the internationally famous MGM Grand Hotel in Las Vegas. And tonight, we are about to welcome Sylvie Vartan. We wish her well.
Sylvie Vartan, j'ai revu les images. Malgré l'enjeu que ça devait représenter pour vous, je vous trouve assez détendu. Vous cachiez bien votre jeu.
J'étais tellement excitée. J'avais tellement envie de chanter toutes ces chansons différentes, les ballets, tout ça. Non, et puis c'était l'Amérique et c'était la première fois. Et c'était extraordinaire. J'avais le feu. Donc,
le feu sur scène, quand on regarde les images, c'est incroyable.
Brûler avec le feu. C'était un rêve.
Las Vegas. C'est une idée de votre mari, le producteur Tony Scotti, qui ne fait pas les choses à moitié. Il conçoit une affiche géante où l'on voit à demi-nu avec un slogan des plus modestes, qui était...
Oui, j'avoue.
Le plus beau cadeau de la France depuis la Statue de la Liberté. Rien
oui,
que ça.
Oui, il fallait oser, oui.
Vous réagissez comment quand vous découvrez cette affiche?
Ah, mais je la connaissais, l'affiche. C'était avec la robe sur laquelle je descendais sur la plateforme en plexiglas. Là.
La fameuse.
Donc, la fameuse robe qui pesait 35 kilos.
Quand même. Passage,
oui, quand même.
C'est une côte de maille à ce niveau-là.
Oui,
35
elle a l'air
kilos.
Très frêle, légère, etc. Mais elle pesait une tonne, en fait.
Éric Casalot, dans le livre, vous nous racontez l'idée de génie de Tony Scotti. Il avait aussi placé cette affiche sur une route stratégique vers New York, c'est ça?
Oui, oui, absolument. Vers New York, à la sortie d'un tunnel, une des sorties de Manhattan, en fait. Et donc, ça.
Mais pour aller à Atlantic City, c'est ça, non?
Il a fait la même chose pour Atlantic City. C'est ça qu'il a fait le coup deux fois.
Pour inciter les gens à aller à Vegas.
Exactement. Et en fait, ça créait des bouchons parce que les gens s'arrêtaient pour voir cette affiche qui était quand même spectaculaire.
Encore fauteuse de troubles, Sylvie Vartan. Décidément, voilà, c'est le fil rouge de votre carrière.
C'est fou, oui, oui, oui.
Alors, on va terminer avec ce qui est sans doute l'événement le plus marquant de toute votre carrière. Sylvie Vartan, c'était en 1990, votre retour en Bulgarie, 39 ans après votre départ. Et les équipes d'envoyés spéciales vous avaient suivi quand vous aviez retrouvé la maison de votre enfance.
Cette bâtisse, aujourd'hui occupée par une amie de la famille, appartenait à son grand-père.
Est-ce que vous vous souvenez de votre départ en 1990?
Bah, bien sûr, on ne peut pas oublier ces choses-là. Pour moi, la Bulgarie, c'était surtout un départ, en fait. Vous savez, on est parti dans... La situation était très, très difficile. C'était très dur. Les gens n'avaient pas de quoi manger. Et puis, rien n'a changé, quoi. Ça prouve bien qu'il y a quand même... une faille quelque part, hein. C'est un régime qui ne marche pas.
Vivre des émotions aussi fortes, aussi personnelles, devant l'œil des caméras, ça n'a pas dû être facile pour la pudique que vous êtes, Sylvie Vartan.
J'étais tellement émue, je ne pensais pas à autre chose. Enfin,
vous ne les voyez même pas, les caméras,
bah
à ce moment-là.
Oui, voilà, exactement. C'était tellement comme un raz-de-marée qui me prenait. J'étais submergée par l'émotion. Et donc, mais d'ailleurs, j'avais prévenu Marity Carpentier en lui disant « Tu es sûre que ça sera une émission programmée pour Noël ?» Parce que comme je ne peux absolument pas m'empêcher de pleurer en permanence, ça va être très, très triste. Et en fait, ça avait été très, très bien filmé par ce réalisateur. Je pense qu'il s'appelait Masson. Mais j'étais très étonnée parce qu'en fait, c'était très pudique la façon dont il a tout filmé. Et c'était pas facile à faire.
Et oui, parce qu'il n'y a pas eu qu'envoyé spécial. Et ce reportage, il y a eu aussi, vous l'avez dit, ce concert.
Oui, Antenne 2 avait également enregistré
diffusé. C'est ça, je parlais du concert.
Voilà,
oui.
Ce concert que vous aviez donné à Sofia, pendant lequel vous aviez évidemment chanté votre célèbre hymne des déracinés, la Maritza.
La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, les filles de mon père, maintenant qui s'en souviennent.
Éric Casalot, vous écrivez dans le livre sachant qu'il n'y aura qu'une captation de ce concert et que Sylvie ne veut pas avoir le maquillage ruiné par les larmes. Elle a, en grande professionnelle, pensé à mettre du mascara waterproof.
Oui, ben ça, je pourrais nous le raconter, mais je ne sais pas si ça a suffi en fait, parce que elle pleurait tellement. Bon, je crois que c'était pas très...
tellement les yeux. Les yeux étaient... sous contrôle, parce qu'avec le mascara, je me disais, bon, c'est pas grave, les larmes, ça va, mais bon. Mais en fait, après, quand on pleure beaucoup, il y a le nez aussi.
Ah, qui oui, s'y met aussi.
Je n'avais pas pensé à mon nez. Et là, c'était très gênant, en revanche.
Tout le monde pleurait avec toi dans la salle.
Oui, d'accord, mais enfin, donc, bon, on filmait, c'était pour Noël. Alors, mais...
Tu sais, pour avoir filmé un peu dans un état lamentable, joyeux Noël.
Un mouchoir, absolument. Non, mais c'était panique, tout d'un coup. C'est vrai que c'était perturbant, ça, franchement.
Ah, mais comme quoi, Sylvie Vartan, cet homme, c'est tout de vous. La preuve dans ce livre qui fournit d'anecdotes en tout genre. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, c'est chez XO Édition. Une lecture parfaite pour les vacances, vous allez vous régaler. Et pour les plus chanceux, vous aurez peut-être une version collector du livre, puisqu'on vous offre des exemplaires dédicacés par Sylvie Vartan sur le compte Twitter dont refait la télé.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Sylvie Vartan, d'être venu nous voir.
Merci. Merci à Eric.
Non, merci.
Et à votre
frère,
Christian.
Oui, à ma frère. Christian, surtout,
exactement.
Voilà.
Voilà. On attend avec impatience votre nouvel album et également de vous retrouver sur scène. Grande tournée en France, Suisse et Belgique à l'automne, avec notamment cette dernière date parisienne pour laquelle il reste encore quelques places. Ce sera le 20 novembre dans ce très bel écrin qu'est la salle Pleyel.
Oui, j'attends ces dates avec impatience parce que oui, je pourrais chanter aussi des nouvelles chansons et également des chansons plus anciennes mais que j'ai adorées et que
aussi.
Je n'ai pas visitées depuis et chantées depuis déjà une bonne dizaine d'années, 20 ans à peu près, donc ça
va être très joli mélange d'époque et d'ambiance. À mon tour de vous remercier, Sylvie Vartan, ça a été un honneur de finir cette saison avec vous. Et oui, finir cette saison parce que Jade, on refait la télé, c'est terminé pour cette année.
Pour cette année.
Merci de m'avoir supporté une année
mais
de plus.
Mais il n'y a pas de problème, vous savez, je suis solide. Merci à vous aussi d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et d'avoir fait, dont refait la télé, l'émission média la plus écoutée de France.
Et puis bien sûr, un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Alors attendez, Sylvie Vartan, je vais faire comme vous pendant vos concerts quand vous présentez votre groupe. À la programmation, Marie-Caroline Mandon. À la production, Germain Sastre. Réalisation et retour scène, Sébastien Dudouis. Et à la direction artistique, Michael Muller. Merci à tous. On se retrouve samedi prochain et pendant tout l'été pour réécouter le meilleur de l'année. Mais pour l'heure, on va souhaiter une bonne dernière de la saison à notre camarade Ophélie Meunier, qui reçoit aujourd'hui l'ami Cyril Lignac dans son journal inattendu. Très bel été à tous sur RTL, évidemment. Ciao, ciao.
Salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.